C'est un jeune homme singulier qui est un amoureux des langues. Daniel Tammet, qui est autiste Asperger, possède le don d'apprendre de multiples langues en un temps souvent très court. Il a ainsi pu apprendre l'islandais en une semaine et il ne cesse depuis son enfance d'explorer les langues étrangères. Aujourd'hui, il voyage à travers le monde. Il enseigne sa méthode très particulière d'apprentissage et il publie aujourd'hui « Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter ». Il est l'invité dans un instant de La Tête au Carré et il va répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science cet après-midi, une étude sur l'impact sur le foie des anti-reflux gastriques.
Et oui, des médicaments régulièrement prescrits en France et qui, dans certains cas, pourraient faire plus de mal que de bien. On fait la part des choses avec le gastro-entérologue Philippe Godberge.
Et c'est Sonia Leglen qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Daniel Tammet.
Bonjour.
Vous êtes cet après-midi l'invité de l'émission pour la sortie de votre nouveau livre qui permet de comprendre ce monde de langues et de mots qui peuplent votre tête. Est-ce que chacun d'entre nous est en mesure d'apprendre des langues aussi vite que vous ou pas?
Aussi vite, je ne sais pas, mais oui. Chacun apprend sa langue maternelle de manière très rapide, intuitive, amusante. Et je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas tous être en mesure d'apprendre l'anglais, par exemple, ou l'islandais, en l'occurrence, plus facilement, de manière plus intuitive. C'est ça que j'explique dans ce nouveau livre.
Ouais. Les personnes qui ont testé votre méthode, hein, est-ce que ça fonctionne bien? Vous avez déjà un recul quasi scientifique sur la question ou pas?
Oui, il y a un chapitre sur la Lituanie, par exemple. J'ai vécu un an quand j'avais 19 ans. Et j'ai enseigné l'anglais avec des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, des femmes toutes, en l'occurrence, qui étaient chercheuses d'emploi et qui voulaient apprendre l'anglais parce que, c'est le cas aujourd'hui en France, c'est une langue utile surtout. Et j'apprenais pas avec les méthodes traditionnelles souvent ennuyeuses, mais avec des méthodes intuitives, des méthodes imagées, poétiques, essayant de parler vraiment à l'enfant qui est en chacun de nous, parce que c'est comme ça qu'on apprend les langues.
Eh bien, vous allez nous expliquer justement comment on peut procéder, entre autres, et puis bien sûr votre propre expérience à l'occasion de cet ouvrage aux éditions Les Arènes. On va faire un tour du monde des mots avec vous et les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Les anti-reflux sont-ils à prendre et à prescrire avec plus de parcimonie? Question posée aujourd'hui à la une de la science après la publication d'une étude menée à San Diego et qui montre que la prise régulière de ces médicaments bloque la production naturelle d'acide dans notre estomac et que cela pourrait être à l'origine de maladies chroniques du foie. Pour en parler, Axel, on reçoit un spécialiste de la question.
Oui Mathieu, on est au téléphone avec Philippe Godberge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue et ancien président de la Société française de gastro-entérologie. Alors peut-être un mot de contexte avant d'aller plus loin. Cette étude a été menée aux États-Unis où 10% de la population prend régulièrement ces antiacides. Quel est le chiffre pour la France?
Le chiffre est à peu près similaire. C'est vrai que ce sont des médicaments qui sont extrêmement prescrits. C'est pour ça que la question posée par cette étude est pertinente, c'est-à-dire le bien fondé d'un médicament dès l'instant où une prescription aussi fréquente doit pouvoir être remise en cause fréquemment lorsqu'elle est renouvelée pour éviter les automatismes.
Ouais. Philippe Goldberg, juste pour préciser et pour être très clair avec les auditeurs, ce dont on va parler, ce sont ces médicaments qui sont prescrits justement. Est-ce que ce que vous allez nous dire concerne de la même manière les médicaments qui sont en vente libre ou pas?
Alors l'étude a été menée exclusivement sur ce que l'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire des médicaments qui sont délivrés en grande majorité sur prescription, mais pas que. Aux États-Unis, ils sont en vente libre. Ce sont des antisécrétoires, c'est-à-dire des médicaments dont la fonction est de réduire la production acide de l'estomac. Et déjà, on peut faire une petite précision, c'est que c'est une réduction et non pas une annulation, alors que au niveau humain.
Alors, ils ont travaillé, ces chercheurs, sur la souris et l'homme. Qu'est-ce qu'ils montrent exactement de l'impact de cette réduction de l'acide sur le microbiote intestinal, en l'occurrence, puisque c'est ça, les résultats?
Alors, les résultats ont été démontrés exclusivement chez la souris. Donc c'est quelque chose qui est relativement différent de nous, c'est-à-dire qu'ils ont étudié ce que l'on appelait autrefois la flore ou la faune intestinale, qu'on appelle désormais le microbiote, et ils l'ont étudié chez des souris qui ont de façon naturelle, génétique, la capacité à développer des maladies du foie, qui ressemblent à ce moment-là à nos maladies du foie, principalement la cirrhose alcoolique. Et lorsque l'on étudie la composition bactérienne de leur flore intestinale, on s'aperçoit que celle-ci est modifiée par la prise des antiacides, par de ces antisécrétoires, et qu'elle s'enrichit en un germe particulier qui est un entérobactère que l'on trouve plus fréquemment. Ça veut donc bien dire que ce type de médicament a un impact sur la flore digestive de souris génétiquement modifiées. Alors après, la transposition à l'homme de ces données, elle n'a pas été faite par des données scientifiques, elle a été faite par des données différentes, qui
voilà,
sont des données épidémiologiques.
Mais alors, pour revenir d'abord sur la fin de l'explication du phénomène, pourquoi est-ce que l'action sur le microbiote intestinal termine par un surrisque pour ces souris de maladies du foie?
Alors, il faut voir que... il ne faut pas que la perception qu'on puisse avoir à partir d'une étude menée chez la souris, bon, c'est vrai que nous on mange du gruyère, mais enfin on est quand même un peu différent et génétiquement pas pareil, ça puisse inquiéter des patients qui prennent ce type de médicament.
Oui, on va y venir.
On va y venir. D'accord, je ne vais pas devancer la
tête. Non, mais vous n'en faites pas.
Mais par contre, ça le modifie parce que notre flore intestinale produit un certain nombre de substances qui vont avoir un impact. Si on s'intéresse, par exemple, aux petites protéines qui circulent dans notre sang, 30% d'entre elles sont produites par le microbiote intestinal. On comprend bien donc que si cette usine de production change dans sa nature, eh bien la nature des protéines vont pouvoir avoir un impact bien à distance de l'intestin, mais dans les organes qui vont être au niveau cérébral, au niveau psychique, au niveau cardiaque et au niveau hépatique. Et effectivement, le passage d'un certain nombre de substances produites par ces entérobactéries vont avoir un effet plus ou moins toxique, plus ou moins prononcé chez ces souris.
Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs types de patients à qui on prescrit ces médicaments. Est-ce que pour certains d'entre eux, ce type de résultat remet en cause la prescription ou la prise?
Alors, honnêtement, pour aucun. C'est-à-dire que les antisécrétoires sont des médicaments qui sont fabriqués et commercialisés depuis extrêmement longtemps. S'il y avait un signal épidémiologique fort chez l'homme, vu le volume de prescriptions, vous citez le chiffre de 10% aux États-Unis qui, en plus de ça, est en vente libre, on aurait déjà eu des signaux d'alerte. On ne les a pas eus. Il y a eu une grande vigilance qui a été faite sur d'autres organes, notamment sur l'os, qui n'a pas abouti à une démonstration. En tout cas, la conclusion des auteurs de cet article est significativement plus prudente, mais est du bon sens en disant que si c'est un médicament qui est très prescrit, qui est pris au long cours, il faut régulièrement se poser la question en termes de bénéfices-risques, parce que ce sont souvent, à quelques exceptions près, et qu'on détaillera probablement après, des médicaments qui ne sont pas à caractère vital. Il faut donc que le bénéfice en soit parfaitement démontré, et chez quelqu'un qui a une pathologie du foie et une prescription peut-être, allez, on va dire pas excessive, mais un peu automatique, eh bien peut-être qu'il faut remettre cette prescription en cause parce qu'il y a un petit signal d'alerte expérimental.
Philippe Godberge, qu'est-ce qui produit au fond cette acidité chez la plupart des personnes qui prennent ces médicaments? C'est l'alimentation tout simplement?
Alors, l'acidité, on en produit tous de façon permanente. On a tous eu un jour une petite remontée aigre au fond de la gorge et on sait que ça, à ce moment-là, c'est de l'acide. Mais il y a un certain nombre de patients qui vont avoir une fragilité liée à cet acide. Ils n'en produisent pas forcément beaucoup plus, mais l'acide qu'ils produisent va être agressif, soit sur leur muqueuse parce que celle-ci aura été attaquée par un médicament comme un anti-inflammatoire ou par un microbe, le fameux Helicobacter pylori, c'est-à-dire cette bactérie en hélice qui vit dans l'estomac près du pylore, ou parce que cette acidité remonte dans leur œsophage, c'est-à-dire qu'elle est à un endroit où elle ne devrait pas être. Et là, à ce moment-là, elle en devient irritante et toxique. Comme on ne sait pas réparer ces mécanismes-là, notamment au niveau du reflux, on sait juste le contourner en réduisant la production d'acide. Et donc le temps de contact entre l'acide et l'œsophage diminue parce qu'on réduit l'acide. Mais on ne règle pas ce qui... Et comme certains vont avoir du reflux, par exemple les obèses qui en ont beaucoup, ou les gens qui mangent gras, les gens qui fument, les gens qui boivent de l'alcool, effectivement ils ont besoin de ces médicaments.
Alors vous dites beaucoup de personnes prennent ce médicament. Parmi ces nombreuses personnes, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent ce médicament par confort ou qui le demandent à leur médecin?
Ah, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, s'ils sont autant prescrits, c'est parce qu'ils sont quand même efficaces. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver des médicaments très prescrits peu efficaces, comme des placebos, mais là, c'est vraiment pas le cas. Et du coup, cette efficacité se retourne presque un peu contre le bon sens médical, qui fait que c'est plus facile d'aller prendre un médicament qui calme mon acidité qui remonte, comme on vient d'en parler, que d'aller m'astreindre à un certain nombre de conseils d'hygiène de vie, à commencer par perdre du poids ou arrêter de fumer, et par facilité, je le prends. Et c'est vrai que, pour certains, pas pour tous, parce que des gens qui ont un œsophage très irrité de façon chronique par l'acide, il faut les protéger, mais pour beaucoup, ça peut être une facilité.
Donc pour vous, ces résultats, ils ont plus le vertu d'ouvrir ce débat sur la prescription de confort que d'inquiéter un quelconque patient ou preneur de médicaments.
Oui, c'est exactement cela, sauf que ça peut les amener éventuellement à une espèce de vigilance et poser leurs questions à leur médecin. Voilà, je viens, vous me renouvelez ça régulièrement, mais c'est finalement, ça, ouais. Quelle serait la stratégie pour vérifier que c'est utile ? Alors, pour vérifier que c'est utile, il faut l'arrêter. Et est-ce que je ne prends pas de risque en l'arrêtant ? Et si je peux réduire la dose, est-ce que je dois le prendre en permanence ? À une dose plus faible ou de façon intermittente. Parce qu'avec un peu de bon sens, tous vos auditeurs se disent si j'ai un médicament qui marche mais que je peux en prendre plutôt moins et plutôt de temps en temps, c'est mieux pour tout le monde.
Ouais, mais c'est pas mieux de dire aux gens attention à ce que vous mangez plutôt que de prendre ces médicaments de confort la journée et craindre des effets délétères ?
Alors, le craint des effets délétères, faut savoir, le rapport bénéfice-risque de ces médicaments sont assez éloignés d'une crainte, mais c'est vrai qu'il faut prendre du temps, et puis surtout, il y a le message, il faut prendre le temps de les mettre, mais aussi il faut prendre le temps de l'écouter. Et donc j'espère qu'en vous écoutant, les patients vont être motivés pour suivre les conseils que nous on peut leur donner. Mais parfois, la facilité, le temps moderne, la volonté de performance aussi, c'est que dans le monde moderne, en ville, les gens ne veulent pas avoir de symptômes, et ce n'est pas que du confort en plus. Quiconque a eu un jour une remontée un peu aigre dans la nuit, par exemple, après un repas de fête, imaginez ce qui arrive chez des patients qui le ressentent en permanence, de façon régulière. Il y a une vraie dégradation de qualité de vie qui a été mesurée d'ailleurs.
Merci Philippe Godberge pour vos précisions. Je rappelle également que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» qui est paru chez Hachette. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Les pompiers surexposés aux substances cancérigènes, les flammes ne sont pas les seuls risques que côtoient les combattants du feu au quotidien. Une étude menée entre 2015 et 2016 dans une caserne de l'Ottawa montre que les résidus de combustion cancérigène présents sur la peau et dans l'urine des pompiers après une intervention sont préoccupants. Ces substances appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques sont produites par la combustion du bois, du plastique ou de l'électronique et ont un pouvoir mutagène important. Les auteurs de ces travaux préconisent une décontamination de la peau après chaque intervention pour pallier ce surrisque et limiter les effets d'une exposition chronique. La qualité de l'eau qui se dégrade en France alors que s'ouvre la deuxième phase des états généraux de l'alimentation, l'association UFC Que Choisir pointe du doigt le monde de l'agriculture pour sa contribution massive à la pollution des eaux françaises. La campagne baptisée SOS dénonce la contamination persistante des écosystèmes par les pesticides et les résidus agricoles. La moitié des rivières, un tiers des nappes phréatiques du territoire seraient concernées et pour moitié à des niveaux supérieurs au seuil de potabilité. Des chiffres officiels qui proviennent du portail d'information mis en place par le ministère de l'écologie. Et puis les pétales de certaines fleurs des champs ont des rayures nanométriques pour attirer les pollinisateurs. Quasiment invisibles pour l'homme, ces nanostructures permettent à la fleur de refléter la lumière du soleil dans certaines longueurs d'onde particulières comme le bleu ou l'ultraviolet. Pour tester les effets de ces structures sur les abeilles et les bourdons, une équipe de l'université de Cambridge a reproduit ces motifs en laboratoire. Ils montrent dans le journal Nature que les insectes sont capables de voir les reflets bleus et qu'ils s'en servent pour localiser certaines fleurs plus efficacement. Une découverte importante selon les chercheurs qui pensent que cette signalétique nanométrique particulière a permis à des espèces de fleurs et de pollinisateurs de coévoluer plus efficacement. Daniel Tammet, notre invité dans un instant pour parler des langues.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. dans les chiottes, les mots gravés sur les murs, par le sexe géant d'amour et d'ordure, ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.
Et c'est le groupe Pigalle à l'instant avec Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, bien sûr.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Daniel Tammet revient dans La Tête au Carré pour ce nouvel ouvrage « Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter ». Et ce livre paraît aux éditions Les Arènes. On va parler donc des langues avec vous et avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, sur le mot-clé « l'attaque ». Vous êtes anglais, Daniel Tammet, et pourtant, dès les premières pages de ce livre, vous dites que vous n'avez jamais eu l'impression d'appartenir à la langue anglaise.
Non.
Et l'apprentissage même de votre langue maternelle, quand même, a été difficile.
Très difficile.
Ouais.
Mes parents ne parlaient que l'anglais à la maison, et pourtant, j'ai jamais eu ce rapport affectif avec cette langue. Pourquoi ? Parce que donc je suis né sur le spectre autistique, ce qu'on appelle aujourd'hui le spectre autistique. Pour beaucoup, sur ce spectre-là, né sur ce spectre-là, on a l'impression d'être étranger. Dès notre naissance, de ne pas vivre dans le bon pays, ou être né dans la bonne langue. Et moi, je... En plus de ça, dans ma tête, quand je regardais le monde qui m'entourait, je voyais les chiffres, je pensais et je réfléchissais en chiffres. Je veux pas dire par ça les mathématiques en soi. Je veux dire que pour moi, les chiffres avaient des formes, des couleurs, des textures, ce qu'on appelle la synesthésie. Cette capacité à prendre des informations de plusieurs parties du cerveau à la fois et mélanger tout ça ensemble.
C'est le fait de faire appel à plusieurs sens.
Oui.
C'est ça, en même temps.
Et donc, pour moi, les chiffres, c'était comme ma langue maternelle, en fait. Je pensais en chiffres, je rêvais même en chiffres. Chaque chiffre avait une forme, et comme la calligraphie, dans les langues asiatiques, ces formes avaient des couleurs, ces couleurs avaient des sens. Donc, quand j'étais timide, enfant très timide, mais pour moi, le mot timide, en anglais shy, mais j'étais pas shy, j'étais 4, le chiffre 4, parce que pour moi, le chiffre 4, c'est quelque chose de bleu, de pointu, et ça veut dire, je sais pas pourquoi, dans cette langue imagée de chiffres, ça veut dire timidité, la timidité. Un sentiment très fort qui m'accompagnait tout au long de cette enfance, comme vous avez dit, difficile par moments, c'était le chiffre 757.
Oui, pourquoi ?
Parce que pour moi, ça avait donc la forme de 757 dans ma tête, c'est une forme, ça ressemble à une racine de gingembre. C'est quelque chose de rond et à la fois un peu... Comme c'est la seule chose à quoi je pense quand je pense au 757 dans le supermarché.
C'est l'image, quoi.
C'est l'image
de
ça. Mais cette image-là, comme devant une calligraphie, pour moi, ça veut dire, c'est une émotion, le mot n'existe pas en français, ça n'existe pas en anglais non plus. Ça veut dire à la fois la solitude immense et ajouter à ça l'envie énorme d'aller à la rencontre des autres.
Ouais. Est-ce que tout ça, vous l'exprimiez à votre famille, justement, pour leur faire comprendre ce décalage entre ce que vous ressentiez, ce que vous voyiez aussi, ce que vous visionniez dans votre tête, et puis la réalité aussi qui vous entourait à l'école ?
Enfant, je pensais que tout le monde pensait en chiffres, comme moi. Ça prenait du temps avant de comprendre que cette langue, c'était une langue personnelle, intime, qui m'appartenait à moi seul. Plus tard, j'ai eu la chance de découvrir la bibliothèque, et dans la bibliothèque, les livres, la littérature. Par la lecture, j'ai découvert qu'est-ce que c'est l'empathie. Lire dans les livres de Shakespeare, par exemple, qui est un auteur à la fois proche des Anglais, extrêmement célèbre, et en même temps reculé dans le temps, de telle sorte qu'il faut le lire en traduction. Même les Anglais le lisent en traduction aujourd'hui, et pour moi, tout de suite, de pouvoir lire un auteur anglais en traduction, ça m'a rassuré. Je me disais, mais je suis pas seul. L'anglais, en effet, pour moi, est une langue étrangère. Et Shakespeare, c'est une langue tellement imagée, comme moi qui vois les mots en couleur et les chiffres comme des mots, comme des calligraphies. Ça m'expliquait tellement de choses sur qu'est-ce que c'est la joie, la tristesse, la gaieté, le deuil. J'apprenais toute la gamme des émotions humaines grâce à Shakespeare. Et puis grâce aussi à la poésie, aux histoires, aux romans. J'allais dans la cour de récréation. J'apprenais les dialogues dans les romans par cœur et j'essayais de les débiter après auprès de mes camarades de classe qui comprenaient rien parce que je comprenais très vite que c'est pas, on parle pas comme on écrit. Et c'est deux langues différentes, c'est deux anglais différents.
Et alors, vous dites à quel point, alors, la bande dessinée, par exemple, évidemment, les illustrations ont été importantes pour vous.
Très
effectivement,
important.
Les dialogues. Et
Tintin.
Puis, l'écrit. Tintin, voilà, par exemple. La BD, hein. Parce que là, pour le coup, il y a des images qui sont posées sur les mots. Et puis, vous dites aussi le style des écrivains.
Oui.
Vous citez Wells, par exemple, avec La guerre du monde.
Oui.
À quel point ça peut aussi influencer votre ressenti? Ça vous mettait dans un état d'excitation particulier,
absolument.
Wells, par exemple?
Oui. Parce que c'était extrêmement, encore une fois, extrêmement imagé. Une manière de manier la plume comme un peintre qui dessine avec des couleurs. Là, ce sont des mots, mais pour moi, des mots comme pour d'autres auteurs par le passé, Nabokov par exemple, qui écrivait Lolita. Et pourquoi Lolita? Parce qu'il pensait aux couleurs d'un papillon particulier. Lui aussi synesthète, donc les lettres dans le mot Lolita, pour moi c'est bleu, pour lui c'était autre chose, je crois, une autre couleur, mais en tout cas donc le choix de mots, c'était par rapport à ce qu'il voyait dans sa tête, par rapport à ses couleurs, ses formes, ses émotions, et moi, Wells et d'autres auteurs, les auteurs francophones aussi, par la suite, ça me touche profondément dans la mesure où ça me donne des images et je trouve que l'écriture c'est aussi une manière de rendre les lecteurs synesthètes aussi, le temps d'un livre, de leur donner des couleurs, des images, tout ce qu'on voit dans notre tête et le temps d'un livre, ils ont aussi le sentiment d'appartenir à ce monde-là, cet univers qu'ils connaissent pas sinon.
Ouais, on en reparlera avec vous tout à l'heure, mais évidemment, l'écriture, entre autres, de votre premier livre, ça a tout changé dans votre
énormément.
Vie. Ça vous a permis vraiment aussi de communiquer autrement avec les autres.
Exactement.
On en discutera dans un instant. Daniel Tammet, vous avez été diagnostiqué à l'âge de 25 ans, c'est
ça?
C'est tard.
C'est très tard.
C'est très tard.
Ouais. Parce que c'est une forme d'autisme de haut niveau qui s'appelle syndrome Asperger, et c'est une forme qui n'existait pas pour moi enfant, qui n'était pas quelque chose que les médecins connaissaient encore, que c'était pas quelque chose qu'on pourrait diagnostiquer chez les personnes avec cette condition-là. Donc longtemps, mes parents ne savaient pas pourquoi j'étais comme j'étais. C'est une condition invisible.
Ouais.
Il n'y a pas de test physique en soi qu'on peut faire pour diagnostiquer quelqu'un comme étant autiste. C'est une question de parcours, c'est une condition du développement. Les connexions dans le cerveau se développent d'une manière différente chez les uns et chez les autres. Et puis l'autre chose à dire, c'est que puisque c'est une condition qui touche principalement le cerveau, les connexions dans le cerveau, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a des personnes sur le spectre autistique. Et le spectre autistique est extrêmement large.
On va écouter ensemble un extrait de Rain Man qui s'inspire justement du cas particulier de Kim Peek, atteint du syndrome d'Asperger. Et ce film est sorti en 98 avec Dustin Hoffman.
Bonjour messieurs. Café ?
Oui, c'est pas dans le fût.
Salut, dip, salut.
461-01-92.
Vous connaissez mon numéro de téléphone?
Comment tu sais ça? Tu m'as dit de lire le livre du téléphone hier soir, Dib Sally. 461-01-92.
Et il apprend par cœur des trucs. De temps en temps, ça lui prend.
Vous êtes des petits malins. Choisissez, je reviens.
Comment tu fais ça? Comment tu fais?
Je sais pas.
Tu as mémorisé tout le bottin?
Non.
Tu l'as lu depuis le début?
Oui.
Jusqu'où t'es allé?
J'ai Godsaker, William Marshall Godsaker.
Tu as mémorisé jusqu'à G?
Oui, j'ai.
A, B, C, D, E, F, G.
G, la moitié de G.
T'es génial.
Ouais.
Ça, je...
Ouais.
Voilà, Rain Man, Daniel Tammet, avec cette capacité de mémorisation. Est-ce que là, on est dans l'exemple du langage numérique, justement, que vous décrivez beaucoup dans votre livre? Poser des nombres sur les mots et vice-versa?
C'est pas pareil. Lui, c'est vraiment de la mémoire. Moi, c'était vraiment... Une langue numérique, comme le chinois qui utilise aussi les pronoms français ou anglais. Quand on voit les calligraphies asiatiques, on voit pas grand chose, on voit les dessins.
La complexité quand même.
On voit la complexité, mais on voit pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais quand on demande à un asiatique, à un homme chinois, une femme japonaise, que ça veut dire, dessin, là, ça veut dire l'espoir, ça veut dire la gentillesse, ça veut dire France Inter, par exemple. Et moi, c'était pareil. 757, ça avait un sens extrêmement spécifique par rapport à une émotion, par rapport à quelque chose que je vois dans ma tête. Le nombre pi, qui est un nombre infini. Et pourtant, pour moi, il y a toute une poésie dedans. Et quand j'ai récité jusqu'à plus de 22 500 décimales, le nombre pi par cœur, c'était comme si j'aurais cité l'Iliade, par exemple. C'était l'Iliade, mais pas écrit en grec, pas comme La Fontaine écrit en français.
Oui.
C'est un poème écrit en nombre. Oui.
Et c'était l'Odyssée des chiffres, là, pour le coup.
L'Odyssée des chiffres.
Évidemment. Quand vous dites France Inter, Daniel Tammet, vous voyez quelque chose de particulier ou pas? Il y a quelque chose qui apparaît pour vous? Ce studio entouré de rouge, tiens, par exemple.
Entouré de rouge, mais c'est pas la bonne couleur pour moi, puisque le mot France, c'est bleu. Quelque chose de bleu pour moi.
Ouais.
Les personnes que je rencontre, la première chose que je découvre, bien sûr, c'est le prénom. Et le prénom des couleurs, souvent, Nicole, par exemple, c'est marron. Catherine, c'est doré. Jérôme, c'est jaune. Mathieu, c'est comme un bleu. C'est quelque chose de violet, de noir, d'un bleu très foncé. Daniel n'a pas de couleur. Il y a des mots aussi, des chiffres qui sont incolores pour moi et sont peut-être plus intéressants quelque part puisque c'est pas comme les autres et moi je suis pas comme les autres, donc ça me colle bien finalement.
Daniel Tammet, vous êtes notre invité, on se retrouve dans un instant et des messages pour vous arrivent sur franceinter.fr.
Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé dès l'inconnu. D'un simple regard j'ai deviné parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupidon n'a pas décoché et j'ai continué à marcher.
cœur croisé. C'était Polo et Pan.
La tête au carré.
Il est visible comme le nez au milieu du visage. On le trouvera.
Brody a des amis dans chaque ville et village, d'ici jusqu'au Soudan. Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales. Il va se mêler à eux, disparaître et vous ne le reverrez jamais. Avec un peu de chance, il a déjà trouvé le Graal.
Indiana Jones en extrait pour discuter avec vous, Daniel Tammet. Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter aux éditions Les Arènes. Ce titre raconte quoi au fond de votre histoire?
Que le langage c'est quelque chose de vivant, que ça change tout au long de notre vie. C'est ça le pouvoir des mots. Moi je suis né sur le spectre autistique en Angleterre, dans un milieu très modeste, et aujourd'hui je suis écrivain, essayiste, romancier, poète, traduit dans le monde entier, avec une carrière, marié, je vis à Paris. Cette transformation étonne les médecins, les spécialistes de l'autisme, ma famille, ma propre famille. Et en même temps, c'est la rencontre, il y a une trentaine d'années maintenant, avec la littérature, avec Shakespeare, avec par la suite Molière et d'autres. C'est la possibilité d'aller à l'encontre des autres, d'idéologuer avec les gens dans le monde entier,
dans plein de langues. C'est la littérature qui vous l'a permis au fond.
C'est la littérature, et puis par la suite, c'est le contact avec les gens aussi, parce qu'autant il y a le langage écrit, et puis autant il y a...
Les échanges.
Et le langage, ça permet ça surtout, et même quand on est né sur le spectre autistique, on a très envie d'aller à l'encontre des autres, de découvrir... Qu'est-ce que c'est qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre qui ne pense pas en chiffres, qui a un autre rapport au langage, à la parole, à la communication? Et puisque pour moi, les langues, c'était quelque chose de difficile, enfant, c'était très difficile. Je comprenais pas grand chose à l'anglais. Je comprenais ce que disaient mes parents, mais en même temps, toutes les subtilités, il y a 80% du langage, c'est social, c'est corporel, c'est ce qu'on dit pas en fait, ce qu'on dit mais entre les lignes, et tout ça, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre, parce que justement c'était un difficile, c'était un combat, c'était une lutte, quelque chose finalement aussi qui est devenu pour moi une passion, passionnant.
On a l'impression vraiment que ces échanges avec vos lecteurs, ça a été une sorte de cascade, comme si un barrage tout d'un coup avait cédé, et qu'il y a eu un flot comme ça de dialogue qui a pu commencer pour vous.
Exactement, il y a 10 ans, on ne savait même pas qu'est-ce que c'était un auteur... autiste. On pensait même que c'était une contradiction, c'est l'idée d'écrire et d'être autiste. Ça existait, les personnes, comme dans le film Rayman, il y a 30 ans, l'idée de quelqu'un comme un singe savant, par exemple. Mais l'idée de quelqu'un doté d'une sensibilité, d'une poésie, d'un don pour l'écriture aussi, pour la communication, capable d'écrire les livres, d'être traduit dans le monde entier, c'était inédit. Et aujourd'hui, 10 ans après, c'est acquis, plus ou moins, on comprend que ça existe, Mais ça aussi, c'était une lutte.
Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, justement, à cause du film Rain Man, autour, justement, du syndrome d'Asperger, laissant penser que tous ceux qui avaient ce syndrome étaient absolument géniaux et avaient des capacités extraordinaires?
Oui, là oui. Et aussi, l'idée d'être génial, mais pour des choses fondamentalement pas très intéressantes, comme par exemple compter les allumettes ou mémoriser... Les numéros de téléphone, c'est bien, c'est pour ceux pour qui c'est important. Ça peut aussi être un sas, une manière d'aller du monde intérieur vers le monde extérieur. Et en même temps, ça nie un peu la créativité qui existe sans doute sur le spectre autistique aussi. J'ai rencontré les personnes nées sur ce spectre comme moi, qui sont aujourd'hui les artistes à part entière, que ce soit les peintres, que ce soit les musiciens, ou comme moi, les écrivains, les poètes, les traducteurs, les romanciers. Donc ça existe, et ça existe de plus en plus. Donc c'est bien, la société change, on commence à ouvrir les portes, que ce soit les portes intérieures, pour comprendre de quoi nous sommes tous capables, d'avoir des perceptions différentes, colorées, imagées, les langues, les langages différents, et puis aussi de voir que la société s'est composée de plein de choses, que c'est composé de femmes, de personnes avec des sexualités différentes, avec des couleurs de peau différentes, qui parlent différemment, et ça c'est très beau, ça s'enrichit tous.
Il y a eu cette rencontre avec Kim Peek qui a inspiré justement le personnage de Rain Man. Oui. C'était à l'occasion d'un documentaire, L'Homme Ordinateur, qui a été tourné en 2004. On va écouter juste un extrait de votre rencontre avec lui, ce dialogue entamé ensemble.
Oui.
Kim, Kim, je suis né le 31 janvier 1979.
C'était un mercredi. Cette année, c'est un dimanche et en 2044 aussi.
En quelle année a été couronnée la reine Victoria ?
Le 18 septembre 1901.
Si Winston Churchill était encore vivant, quel âge aurait-il ?
130 ans.
Et son anniversaire tomberait quel jour cette année ?
Ce serait un mardi, le dernier jour de novembre. Je suis plus vieux, mais vous êtes quand même un homme bien.
Merci. Vous aussi.
Oui, monsieur.
Quand on s'est séparés, il m'a dit, nous avons lu dans les yeux l'un de l'autre. Et un jour, vous serez aussi grand que moi. C'est un compliment merveilleux et comme un but pour moi.
Voilà, c'est votre voix qu'on vient d'entendre, Daniel Tammet, avec cette rencontre avec Kim Peake, qui était importante pour vous quand même. Hein,
important, c'était il y a 13 ans maintenant. À l'époque, je savais très peu de l'autisme, je venais d'être diagnostiqué sur le spectre autistique. Là, il y avait la possibilité de rencontrer quelqu'un qui avait des dons certains, et surtout une sensibilité qui se traduisait pas forcément par le dialogue. On voit là que ça passait par l'encyclopédie, par les faits, qui était pour lui extrêmement important, pour moi peut-être enfant important et par la suite moins important, mais ça montre qu'une partie de lui, parce que au-delà de ça, il chantait. Il aimait bien chanter, il suffisait de lui donner quelques mots d'une chanson et il commençait à chanter, il avait une belle voix. C'était un homme avec beaucoup d'humanité, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, et ça, c'est difficile à voir parfois par un échange comme ça qui est si ancré dans les faits. Mais pour lui, les faits, c'était pas simplement les faits. Ça, comme pour moi, les mots ne sont pas simplement les mots, mais quelque chose qui vive, qui vole, c'est coloré, imagé.
Alors justement, vous parliez de la singularité, hein, de cette synesthésie, cette façon de représenter les choses. Il y a des questions des auditeurs. Ghislain qui nous dit d'abord, le terme en langue chinoise pour bonjour, par exemple, est totalement incompréhensible pour qui ne connaît pas cette langue. Les significations des mots ne sont que des conventions sociales. Pourquoi pas un 4 bleu et pointu pour signifier quelque chose ? Ça n'est pas plus idiot qu'un mot ordinaire, c'est juste que la convention ne partage pas cette signification. C'est exactement ce que vous ressentez, ce que vous décrivez d'ailleurs.
Exactement, hein, c'est un livre qui parle des conventions et qui explique en quoi. En effet, c'est la société qui décide, c'est pas les langues qui nous imposent une manière de penser, c'est nous ensemble qui créons et qui recréons en permanence, ça change, et c'est ça qui rend ça quelque chose de très vivant et de très jouissif aussi, ça change tout le temps et ça nous change, ça nous transforme.
Mais est-ce que vos repères, ceux que vous décriviez tout à l'heure, d'associer certaines couleurs à certains mots, est-ce que ça c'est fixé pour toujours ou est-ce que ça évolue, est-ce que c'est très plastique aussi ?
Non, ça c'est quelque chose de plutôt fixé. Ce qui change, par contre, c'est la manière de l'utiliser. Enfant, c'était quelque chose qui m'appartenait à moi seul. À l'âge adulte, je comprenais que c'est quelque chose qui était partagé par d'autres, qui n'était pas tout sur le spectre autistique aussi. Je connais une dame en Islande, poète, pour qui les mots ont des couleurs aussi. Ce ne sont pas toujours les mêmes couleurs que pour moi. C'est quelque chose de très subjectif. Mais ça l'aide dans sa poésie. Comme moi aujourd'hui, ça m'aide dans mon écriture. L'écriture, pour moi, c'est quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose simplement d'intellectuel. Je ressens vraiment ce que j'écris. Et chaque phrase, il y a une question d'équilibre,
Donc c'est votre histoire aussi qui s'est construite au travers de ces représentations mentales que vous avez des mots.
Oui, hein?
C'est uniquement lié aussi à...
Je pense que le langage, finalement, c'est une manière de se placer dans le monde. On n'a qu'un corps, mais on veut à tout moment aller plus loin, aller à l'encontre de ceux qui sont dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, dans d'autres langues. Et c'est le langage qui nous permet de faire ça, soit par le biais d'un téléphone, par exemple, avec des gens dans d'autres pays, ou par Internet, les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est par nos mots qu'on arrive à nous transporter, presque comme on est au 23e siècle, on arrive à se transporter comme ça, dans l'espace ou dans le temps. Puisque quand j'ouvre le livre de Victor Hugo, par exemple, il me parle, pourtant il est mort depuis plus d'un siècle, mais ces mots continuent à m'atteindre, à me toucher, à me transformer, à nous tous. Donc c'est ça le pouvoir des mots aussi, de langage.
Marie nous dit, j'ai fait lire le livre « Je suis né un jour bleu » à mon fils, qui était bizarre, dit-elle. Il avait une dizaine d'années, c'était une révélation pour lui. Enfin quelqu'un qui lui ressemblait. Il n'y a pas de syndrome autistique chez mon fils, mais un très fort QI. Merci pour ce livre qui l'a totalement libéré. Ah. Voilà, un témoignage parmi tant d'autres, j'imagine. Merci. Alors, autour de l'espéranto, il y a aussi beaucoup de questions. Quand on parle de linguistique, il y a toujours des amateurs d'espéranto qui nous écrivent, c'est normal. Patrice nous dit, on oublie que le premier rôle d'une langue est la communication. Instituteur, j'ai toujours regretté que la première langue étrangère ne soit pas l'espéranto, porteur d'humanisme et d'une logique remarquable. Quel gâchis. Vous en parlez longuement dans cet ouvrage. Oui, vous consacrez
j'en parle
beaucoup
longuement
de pages
l'espéranto dans ce livre.
Et surtout, vous nous apprenez quelque chose, Daniel Tammet, c'est que certaines personnes ont l'espéranto comme langue maternelle.
Comme langue maternelle.
Alors ça, je ne savais même pas que ça existait.
Non, ça existe.
Elles sont très peu nombreuses.
Elles sont très peu nombreuses parce que c'est une situation un peu inédite, mais par exemple, si le père est français, mais la mère est chinoise, et les deux parents ne parlent pas entre eux en chinois ou en français, mais se connaissent à travers l'espéranto, mais ils décident parfois d'élever l'enfant en espéranto. Donc pour ces enfants-là, en effet, c'est leur langue maternelle. Comme pour moi, les chiffres est ma langue maternelle, donc ces langues atypiques existe aussi comme langue maternelle.
C'était une utopie au départ, l'espéranto. Vous le rappelez, à la fin du 19e siècle, il y avait ce rêve justement d'un langage universel qui n'est devenu qu'une mode ensuite.
Oui, malheureusement, parce que l'idée est très belle. Il y a une vraie poésie dans cette culture, dans cette langue que je célèbre dans ce livre. Il y a aussi l'idée derrière, en effet, que les langues qu'on parle, c'est pas simplement les mots, c'est pas simplement la grammaire, les règles, même si tout ça c'est important, bien sûr, il faut l'enseigner bien à l'école. Mais au-delà de ça, en effet, c'est la communication, c'est l'envie de rencontrer d'autres à travers la parole, de toucher l'autre, de communiquer quelque chose d'essentiel, pas simplement de dire « il fait beau », les phrases un peu bateau qu'on apprend à l'école, « je m'appelle tel ou tel », ça c'est important bien sûr, mais c'est de pouvoir parler de l'amour, de l'essentiel, de nos vies, de nos peines, et pour ça...
Mais pourquoi cette langue, l'espéranto, vous touche autant? Parce que régulièrement, quand on reçoit des linguistes ici dans l'émission, quand on leur pose des questions sur l'espéranto, ils lèvent les yeux au ciel.
Oui.
Et vous, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de particulier avec cette langue. Est-ce que c'est parce qu'elle porte quelque chose de tout à fait singulier ou pas?
C'est parce que c'est un rêve. Moi, j'aime bien les rêves. Je ne suis pas moi-même de nature utopiste. Je suis plutôt réaliste. Mais je pense qu'il nous manque parfois cruellement de rêves dans ce monde très porté aujourd'hui sur le capitalisme, sur les échanges purement d'intérêt, d'ego. Et là, d'avoir quelque chose qui nous parle de la culture, l'importance de la culture, du rêve, d'une certaine utopie, je trouve ça jouissive.
Cause with us.
Curtis Harding sur France Inter. Daniel Tammet, l'invité cet après-midi de La Tête au Carré pour ce livre. Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter. C'est aux éditions Les Arènes avec les messages des auditeurs. Daniel Tammet. Aurélien nous dit ceci. Je suggère quant à moi de dire langue natale comme pays natal et non langue maternelle. D'ailleurs, dans l'exemple cité, l'espéranto, eh bien, ça n'est pas la langue maternelle. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Bah, ça dépend. Et en effet, il y a pour certains pour qui, en effet, c'est la langue maternelle dans le sens strict du terme. Mais en effet, pour certains, c'est plutôt une langue natale.
Margot aimerait savoir si une même notion, par exemple le bonheur, a la même couleur pour vous dans les différentes langues. Est-ce que selon le...
Non, ça change selon souvent la première lettre du mot. Donc happiness en anglais, c'est un mot plutôt blanc. Bonheur, c'est plutôt noir. C'est en tout cas beaucoup plus français. En allemand, glücklich, ce serait plutôt vert. Donc, ouais, ça change.
Alors justement, Jacques nous dit, entendre et refaire les sons du patois m'ont aidé à parler d'abord parisien, puis à entrer dans l'allemand plus tard. Sans doute une question d'ouïe ou de reproduction articulée. Donc ça, c'est vraiment un jonglage aussi entre les langues.
Oui, je pense que pour beaucoup, c'est la musique qui aide à trouver ce...
Le son des mots, alors.
Oui, le son des mots, l'oreille. Parce que en effet, ça joue... un rôle très important, en effet.
Daniel Tammet, en 2004, justement, vous avez inspiré une artiste, Kate Bush, qui a assisté ou a entendu parler, en tout cas, de votre performance autour du chiffre.
Peut-être assisté, mais je n'ai pas vu, en tout cas. Mais,
Donc, cette performance, pendant 5 heures, on le rappelle, vous avez été capable de réciter les 22 000, un peu plus, décimales de pi, en tout cas, les 22 premières décimales de pi. Kate Bush, qui donc a fait une chanson, on va en écouter un extrait, vous nous en direz quelques mots juste après. Si Kate Bush était dans votre tête, Daniel Tammet, pendant cette récitation des décimales de pi.
C'était super. C'est quelqu'un qui a bercé toute mon enfance, une star, une vraie star en Angleterre et partout dans le monde.
Babushka.
Exactement. Et de savoir que cette dame touchée par mon parcours, par mon histoire, par cette aventure dans le nombre pi, cette poésie pour moi de ce nombre, cette langue natale, en tout cas maternelle pour moi, Ça m'a bouleversé quand j'ai découvert ces chansons. Et puis, j'aime bien travailler avec les artistes, que ce soit les inspirer directement comme ça, ou sinon comme avec Peter Brook, avec qui j'ai travaillé sur une pièce de théâtre, sur la synesthésie justement. J'aime bien parce que, voilà, on est là dans l'imaginaire aussi, et les langues, finalement, le langage, c'est ça. C'est pourquoi ça nous touche autant? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on grandit avec, c'est nos grands-mères qui nous parlent, c'est nos parents qui nous parlent, c'est des histoires d'une vie, d'une nation, d'un pays, de toute une histoire. Donc j'aimerais bien un jour travailler aussi avec des artistes visuels, puisque c'est une langue visuelle pour moi, donc que ce soit le théâtre, le cinéma, ça serait un futur projet, j'aimerais bien avoir aussi.
On découvre donc toutes ces langues que vous parlez, le lituanien, on va laisser au lecteur d'ailleurs le soin de découvrir ça, parce qu'il y a eu l'islandais aussi, que vous allez apprendre une semaine, on connaît bien cette histoire maintenant, puisqu'elle a été filmée pour un documentaire.
Exactement.
Donc ça a été l'objet vraiment de ce travail. Et puis il y a aussi aujourd'hui ce rapport à la machine qui vous intéresse, et votre compatriote Alan Turing, qui se serait trompé d'ailleurs dans ses prévisions, ou pas, parce que pour lui, au XXe siècle, toutes les machines seraient capables de parler correctement une langue.
Tout à fait.
On n'y est pas quand même.
Pas du tout. Les ordinateurs sont capables de nous imiter, nous imiter assez bien,
c'est
faut le
mal,
dire,
ouais,
c'est déjà pas mal. Mais de là à avoir une véritable conversation, moi j'ai vécu la difficulté que c'est d'apprendre à parler avec d'autres personnes, à avoir un vrai dialogue. On voit avec les politiques en France comme ailleurs, qu'est-ce que c'est difficile de parler, de dialoguer, quand on n'a pas les mêmes idées, quand on partage même pas les mêmes convictions. De qu'est-ce que c'est quand on a quelqu'un qui est fait de chair et d'os comme les humains, un ordinateur? Mais pour l'instant, c'est quelque chose d'impossible d'imaginer, sauf dans les science-fiction, dans les films, dans les... Et un jour, peut-être ou pas, moi j'ai dialogué avec les philosophes de langage, avec les sociologues de langage, avec les linguistes, sur cette question-là, c'est tout un chapitre dans le livre. Je reste moi-même, pour ma part, encore sceptique. Je pense que autant j'aimerais bien voir la possibilité de voir les ordinateurs continuer à nous aider dans notre quotidien. Ça, c'est très utile et très important.
Mais de rester ordinateur avant tout.
Mais de rester ordinateur et de nous laisser la place de rester humain.
Ouais. Ouais. Mais il y a des limites peut-être aussi à la machine, tout simplement.
Je pense parce que je pense que les langues, ce qu'a pas compris Alan Turing, c'est que les langues sont pas les codes. Et que les humains, y compris les humains autistes, ne sont pas les machines, ne sont pas les ordinateurs, ne sont pas les calculateurs, sont les humains, avec leur part de poésie, leur part de mystère aussi. Même les ordinateurs les plus rapides ne peuvent pas percer ce mystère-là, le mystère d'être humain.
Tant mieux alors.
Tant mieux.
Il faut que ça dure longtemps. Optimnem, comment on prononce ce site internet?
Optimnem, oui,
ouais.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, Daniel Tammet?
Oh, ça ne va pas vouloir dire grand-chose, c'est un mot que j'ai inventé, comme tant d'autres.
Oui, comme votre langue d'ailleurs.
Le Manti.
Vous avez inventé le Manti.
C'est une langue que j'ai inventée parce qu'à l'époque, n'ayant pour langue que l'anglais, que je considérais comme une langue étrangère, j'avais envie de prendre dans les d'autres sons que j'entendais autour de moi les langues scandinaves. J'avais une voisine finlandaise, par exemple. Les sons et les utiliser pour m'exprimer, pour parler aux autres. Bien sûr, ça marchait pas. Personne me comprenait. Donc, je continuais à trouver plutôt dans l'écriture par la suite une manière de garder cette poésie et de communiquer avec mes lecteurs.
C'est ça, une langue, ça doit se partager quand même avant tout.
Tout à fait, hein, tout à fait.
Comme ces poèmes que vous écriviez à base de chiffres aussi.
Oui. Hein,
ça, c'était quelque chose que vous faisiez enfant.
C'est quelque chose que je partage avec les lecteurs dans le livre. Je trouve que c'est intéressant quand même, mais en effet, ça reste là. Comme l'Oulipo d'ailleurs, il y a un chapitre sur l'Oulipo aussi, un chapitre
le choc de ce mot,
sans la lettre E, tout un chapitre écrit sans la lettre E, il faut le faire.
C'est vrai.
Je l'ai fait. C'est quel artiste, Georges Perec.
C'est vrai.
Ouais.
Et vous remerciez Samuel Sfez tout particulièrement pour ce chapitre Oulipo.
Incroyable,
hein, qu'on peut
traduction.
Découvrir dans votre ouvrage. Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter. Donc ça sort aujourd'hui même aux éditions Les Arènes. Et puis donc ce site internet Optimnem, on l'a mis en lien sur la tête au carré.
Parfait.
Pour ceux qui souhaiteraient découvrir votre méthode d'apprentissage pour peut-être un jour apprendre l'islandais en une semaine. Ça peut toujours servir pour partir en vacances,
tout à fait,
par exemple.
Tout à fait.
Merci infiniment Daniel Tammet d'être venu aujourd'hui dans la tête au carré.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
C'est terminé pour l'émission. Merci à Fabrice Desmaz et Anne-Laure Cochet qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, spécial météorite à l'occasion d'une grande exposition qui va démarrer au Muséum National d'Histoire Naturelle.